Ressuscité, dit-à Simon, Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Simon lui répond, oui Seigneur, je t'aime, tu le sais. Jésus lui dit, sois le berger de mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Simon lui répond, oui Seigneur, je t'aime, tu le sais. Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes vraiment? Et Pierre fut peiné parce que pour la troisième fois, il lui demandait, est-ce que tu m'aimes? Simon répond, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, c'est un autre qui te mettra ta ceinture. Pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis il lui dit encore, suis-moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, alléluia. 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 Louange à toi. Répand dans tout être qui s'est ancré de tes mains, pose en lui la bénédiction, pour l'ouverture de tous les temps, dans la délivrance de toute entrave, la libération de toute faute au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Louange à toi,
Alléluia.
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 C'est le pape Innocent III qui disait la lumière divine est cachée aux sages, révélée aux tout petits. C'est le pape Innocent III qui dit ça. Donc à propos du texte sur le pape. Alors, ce qu'il y a de plus petit, ce n'est pas les grands qui bloquent les projets de Dieu, c'est les tout petits. Parce que c'est celui qui ne reçoit pas qui bloque. Le grand. On ne peut pas bloquer. La lumière est révélée aux tout petits. Et donc, si c'est le tout petit, le plus pauvre, qui bloque, tout est bloqué. Tout attend toujours du roi, du pape. C'est pas bien. Mais qu'est-ce que c'est que cet évêque qui bloque tout? Qu'est-ce que c'est ce prêtre qui nous coince la paroisse? Qu'est-ce que c'est que cette responsable de la DAP de la paroisse qui nous... Les grands ne bloquent rien, vous savez. Ils en sont bien incapables. Et c'est la lumière révélée au tout petit. Le pape, c'est pour ça que j'aime bien ce que dit le pape Innocent III. La lumière infaillible du pasteur, du berger, révélée au tout petit. C'est dans la mesure où il est minuscule. Ça en dit bien d'ailleurs esclave des esclaves. En grec, hein, c'est esclave des esclaves. En français, on est plus noble, on dit serviteur des serviteurs. Doulé, doulain, esclave des esclaves. Plus petit, tu peux pas. Hein, plus dépendant, plus dépendant, plus obéissant. Plus obéissant, tu peux pas. C'est la désobéissance qui cause. Que la lumière est bloquée, arrêtée, c'est ça. Alors donc on disait ce matin, on disait cette nuit en lisant cet évangile que je me suis dit, sois le berger de mes agneaux, sois le pasteur de mes brebis, et puis sois le berger de mes brebis, sois le berger de mes agneaux. Sois le pasteur de mes brebis, sois le berger de mes brebis. C'est beau ça, hein? C'est beau. Quand on est tout petit, par la lumière, par l'effacement, la sainteté éternelle qui est la nôtre, dans notre liberté, hein, dans le Christ et Dieu lui-même. Voilà, c'est les trois étages, hein, qui s'exprime librement à travers nous, dans la création tout entière. Voilà les trois étages de l'infaillibilité. Le jour où la toute petitesse, la toute petite humilité, les âmes de l'Église catholique, il n'y a plus personne pour vivre de ça, il n'y a plus d'infaillibilité, heureusement, pour le pape. Et heureusement qu'il y aura toujours des petits pour vivre cette infaillibilité, parce que le principe d'émanation de l'infaillibilité, on l'a bien compris, elle vient de la petitesse. Voilà, sois le berger de mes agneaux, on est le principe. C'est extraordinaire que le Père en nous, la première personne de la Très Sainte Trinité, fasse de la toute petitesse de notre mission sur la terre, fasse de nous des principes de l'union hypostatique des chéris Jésus. C'est vrai, c'est extraordinaire ça. L'agneau, c'est les agneaux, c'est le principe de l'unique rédemption. C'est vrai, c'est extraordinaire. Il n'y en a pas qu'un, il n'y en a qu'un. C'est ça que c'est extraordinaire, sois le berger de mes agneaux. Hein, c'est la paternité. Le Père engendre un effacement. Le Père engendre une lumière qui s'efface pour qu'il n'y ait plus que de l'amour. C'est les agneaux. C'est toi qui me disais, oui, c'est toi qui me disais, les agneaux c'est génial parce que, enfin c'est génial, c'est très curieux, c'est unique au monde parmi les animaux. Lorsque tu fais mal à un agneau, il est blessé, tu veux le soigner, tu creuses dans sa plaie, ça fait très très mal. L'agneau se laisse faire, il souffre silencieusement, avec une immense douceur. Voilà, il se laisse conduire à la plus grande souffrance avec une immense douceur, une très 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 grande, presque gratitude, l'agneau. Hein? C'est ça que tu me disais.
Ça dit rien.
Il dit rien.
Il coupe en morceaux, il dit rien.
Tu me découpes en morceaux, il dit rien. C'est presque de la gratitude. C'est l'agneau, ça. C'est espèce d'innocence offerte. De la douceur, c'est l'agneau, voilà. Sois le berger de l'agneau. Alors ça, c'est la paternité. Le Père engendre engendre une vie qui aime à s'offrir en silence dans la gratitude. C'est beau, quoi. On est le Père, le Pape est le Père de l'Eucharistie. De l'agneau. Et aussi, de faire que toute souffrance... le Pape est... C'est le trône du Père qui engendre dans les chrétiens cette capacité à souffrir avec une immense gratitude, une surabondance d'onction et de douceur, d'action de grâce, de reconnaissance, de joie profonde, sourde, surabondante. C'est une grâce qui vient directement de l'éternité incréée de Dieu. Et ça, le pape est la source infaillible de cette grâce sur la terre. Sois le berger de mes agneaux. Mais c'est pas la même chose, vous voyez, que d'être le pasteur tes brebis, donc. Hein. Si t'es le berger des agneaux, ben, forcément. Alors, du coup, le Fils Dieu est créateur, et donc il est lui-même l'agneau, et donc il est le principe. Il est le principe de l'Immaculée Conception, et le principe des sources de la vie. Le pasteur des brebis. C'est beau ça, c'est vrai. Tout ce qui fait la vie du Fils dans l'infaillibilité du Saint-Père, c'est de faire une Jérusalem glorieuse, surabondante de vie éternelle. Parce que la gloire de la résurrection de la Jérusalem céleste n'est rien à côté de ce qui émane d'elle dans l'incréé de la Très Sainte Trinité. C'est ça les brebis. C'est le pasteur de mes brebis. Et puis après, donc le dernier, c'est ce qu'on disait, hein. Ah, c'est le berger. Le bon berger, le berger de mes brebis. Là, c'est Saint-Esprit, hein. Le berger des brebis. C'est la responsabilité avec le Saint-Esprit, hein, le berger des brebis. Hein. Le berger, il les amène dans les pâturages, et puis il les laisse. Il vaut mieux que je m'en aille, donc. C'est le berger, et il les laisse dans l'Esprit-Saint, hein, le paraclet. Elle vit du Saint-Esprit. C'est l'infaillibilité de l'Église, c'est ça. Du Saint-Père, c'est d'amener, par le principe de l'infaillibilité, à l'accomplissement de l'Église de la fin, à partir de l'Apocalypse, à partir de Marie dans son Assomption, et Joseph glorifié, de pouvoir faire en sorte que Saint-Esprit brûle la création tout entière d'une manière sponsale. D'une manière sponsale, pas seulement, vous voyez, l'esprit de lumière. Le Saint-Esprit de lumière, pas seulement le Saint-Esprit de saveur pacifique. Pas seulement le Saint-Esprit d'extase, de pénétration intérieure infinie de Dieu. Enfin, bref, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de science. Pas seulement l'Esprit Saint répandu dans ses rayonnements, dans ses attributs, vous voyez. Mais le Saint-Esprit dans son hypostase, le paraclet, dans sa substance, dans sa aspiration à créer, là, ici, d'amener les enfants de Dieu à être le tabernacle du Saint-Esprit, à être l'au-delà de l'unité sponsale avec l'Esprit Saint. Voilà cette espèce de d'aspiration, d'amour incréé dans l'au-delà de la chair et dans l'unité de tout. Voilà, ça, c'est la grâce de l'infaillibilité. Tu es le berger, tes brebis. C'est pas la même chose que d'être le pasteur, vous voyez. Le pasteur, il conduit. Le berger, il les laisse. C'est pour ça qu'au début, c'est le berger des agneaux. Le père laisse le fils et le livre. Le pape, par exemple François, ben la première messe qu'il a célébrée, je crois que c'était le 14, sauf erreur de ma part, bon, et il a fait un sermon où il a expliqué ça. Il a dit, mais c'est Dieu qui est crucifié, qui fait tout l'intérieur de notre vie. Si c'est pas Dieu qui est crucifié, nous n'existons plus. C'est Dieu crucifié, c'est Jésus, mais c'est pas Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu déchiré, crucifié, anéanti, crucifié, offert. C'est ça. Voilà. Pendant 8 minutes, il a parlé ça, à son Emmanuel cardinaux, à son premier sermon de pape. C'est Jésus, Dieu qui est crucifié, qui fait toute notre vie intérieure. Plus rien d'autre dans notre vie intérieure que ça. Plus rien d'autre que ça dans notre vie intérieure. Regardez les cardinaux, plus rien d'autre que ça. Et puis, c'est vrai, là. C'est Jésus célébrer la messe avec lui. C'est un grand mystique. Un grand mystique. Parce que dire ça, ça veut dire je vis de l'union transformante à 100%. Hein. Donc, c'est plus moi qui vis, c'est Jésus crucifié qui vit en moi. Le reste n'existe plus pour moi. Il n'y a que ça qui vit. Et que Jésus crucifié. Union hypostatique désirée qui m'envahit, qui envahit le monde entier, qui envahit le Père, et qui fait que Saint-Esprit a tous les droits à l'intérieur de Dieu, à travers moi. Voilà le premier sermon du pape. Je vous avoue que j'ai été bluffé. Sois le berger, donc de mes agneaux. C'est vrai que bon, on se retrouve avec donc un pape qui agonise comme Jésus jusqu'à la fin du monde dans l'Eucharistie, qui chasse les démons, et puis on a un pape qui exprime, qui reste plus dans la pauvreté intérieure de Jésus crucifié jusqu'à la fin du monde que l'attente du paraclet, voilà. Et les deux sont dans une unité totale à l'intérieur de l'infaillibilité qui est hypostasiée dans l'au-delà de leur unité profonde dans le cœur de Marie, qui fait que l'infaillibilité court désormais à son accomplissement. Dans le corps mystique de l'Église. Et nous sommes le tabernacle, vous voyez, de cette infaillibilité. On porte le Saint-Père dans notre cœur. On porte l'infaillibilité du Saint-Père dans notre cœur. C'est bizarre de dire l'infaillibilité du Saint-Père, alors qu'ils sont deux. Et quelquefois, quand je dis la messe du soir, je dis ils sont trois. C'est une tentation que j'ai quelquefois, ou une imagination. Elle est fausse, je le sais bien, elle est totalement fausse. Mais j'imagine Jean-Paul II. C'est une imagination, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une imagination. Jean-Paul II n'est pas au ciel. Jean-Paul II est descendu au milieu de ces milliards et de ces milliards et de ces myriades 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 de saints, sa peau des derniers temps. Et qui célèbre la messe jusqu'à la fin du monde sans être hanté encore au ciel avec eux. Et qui sont trois en un et un en trois dans notre cœur. C'est une imagination. Je sais bien que c'est une imagination, mais elle me plaît, cette imagination-là. On a le droit d'avoir des imaginations. Il ne faut pas trop. Et en tout cas, il ne faut surtout pas les écrire. Mais ça ne veut rien. On peut les écrire comme un poème. On peut les écrire comme un poème d'enfant. Et c'est ça, quand on rentre dans le Saint des Saints, dans la faillibilité du Saint-Père, pour demander pardon, pour donner parfaitement tout ce que Jésus a donné parfaitement de sa personne divine et incréée, éternelle au Père, pour l'émanation du Saint-Esprit dans le mystère de la croix, enfin, dans le mystère du temps englouti dans l'éternité, dans l'au-delà de l'unité des deux. Voilà, ça, quand dans le Saint des Saints nous célébrons cette messe jusqu'à la fin du monde, c'est la signification de la messe du soir, avec le pape, avec ce troisième, avec ce deuxième, avec ce premier. Le pape, pour nous, c'est très important. Pour Dieu, c'est très important. Pour Jésus, c'est très important. Il y a des choses qui sont très importantes. Voyez, pour le tabernacle, c'est l'Immaculée Conception, hein, dans l'épouse du Saint-Esprit, ça, c'est sûr. C'est le tabernacle, ça, c'est l'Arche d'Alliance, c'est le tabernacle. Le trône, ça, c'est ce qu'on a dit, hein, c'est ça, Joseph, c'est sûr. Le ciel de l'Église, c'est le pape. Hein. C'est le pape qui est le lieu de l'unité. L'unité. Quand un pauvre homme devient pape, c'est un homme. Alors voilà, donc nous allons célébrer la messe avec cette évidence que les puissances de l'enfer, désormais, à partir de maintenant, sont perdues. Les puissances de l'enfer sont écrasées, définitivement vaincues. Parce que l'unité est parfaite. Et qu'elle ne peut pas aller autrement dans le cœur de Marie, dans l'Arche d'Alliance, dans la l'Immaculée Conception accomplie, elle ne peut pas aller ailleurs que dans cette course effrénée, de plus en plus rapide et cinglante pour le démon, vers la victoire finale, la manière la plus petite qui soit, dans l'infiniment petit de l'Eucharistie, reçue. Les forces tridimensionnelles de la lumière, de l'amour et de la gloire éternelle et incréée de Dieu se saisissent de nous dans l'infiniment petit de l'Eucharistie, blottis et assimilés à l'infiniment petit, notre petitesse la plus petite qui soit, pour s'épanouir dans l'accomplissement de l'infiniment grand, de la communion donnée de la très sainte Trinité. C'est par la petitesse que les choses se bloquent. C'est pas par la grandeur ou l'intermédiaire. Aristote le disait déjà. Donc sans notre humilité, sans cette pauvreté, sans minusculité, de savoir qu'on est un rien ou néant, ça c'est un petit peu une imagination, mais infiniment petit, ça oui, insignifiant, ça oui. Et ben l'intérieur de cet infiniment petit, c'est l'Eucharistie. Tu peux pas devenir plus petit que Dieu dans l'Eucharistie. La transsubstantiation utilise, du point de vue de la matière, quelque chose qui relève de l'infiniment petit. L'infiniment petit, l'état pur, maximum, c'est le lieu créé de la transsubstantiation de Jésus dans l'Eucharistie. Et c'est là où seulement nous pouvons faire un avec cet infiniment petit, dans notre humilité infiniment petite, qui nous rend infiniment petits. Et donc, cette victoire, vous voyez, sur cette espèce de enflure qui toujours nous menace. Ouais. Comment est-ce qu'on dit la fable là, de la grenouille qui veut être plus grosse que le bœuf, c'est ça?
La grenouille qui veut être plus grosse que le bœuf.
C'est ça, oui, la grenouille qui est plus grosse que le bœuf. Savoir qu'on ne parle pas de nous, que personne ne... C'est génial, c'est agréable, vous savez. On devient un électron libre. Dès qu'on est un peu important, un tout petit peu, qu'on a un rôle, on n'a plus cette liberté originelle et divine. Hein. Mais cette liberté de l'obéissance, de la dépendance et de l'accomplissement, c'est le principe même de l'infaillibilité du Saint-Père. On te mène là où tu ne veux pas. Tu es un instrument. Moi, je suis sûr de ça, c'est que on porte en nous comme principe le Saint-Père. Vous êtes la maman du Saint-Père. Un principe, ça veut dire une source. Mais la source du Saint-Père dans sa mission, dans son infaillibilité divine. Vous voyez, s'il n'y avait plus de chrétiens pour porter le Saint-Père dans le cœur, il n'y aurait plus d'infaillibilité. Mais ça, c'est impossible. C'est impossible. Parce que, ça y est, le Saint-Père a consacré le monde et les enfants de Dieu à Marie, au ciel et à la terre. Et, enfin, bref, il y aura toujours des gens qui aimeront, enfin, qui porteront le Saint-Père comme un principe. Comme il y a eu un principe pour porter du temps l'Immaculée Conception avant qu'elle ne puisse être créée par Dieu. C'est de cette manière-là que nous portons le Saint-Père, que nous portons l'infaillibilité du Saint-Père. Et toutes les bêtises qu'on peut dire, en disant « Ah oui, ah, ah, ah. » Et non, bien sûr que non, c'est pas ça, c'est autre chose. L'Église vient pas de la terre. Hein. L'Immaculé, enfin l'Église vient pas de la terre, l'Église vient pas de la terre, l'infaillibilité du Saint-Père non plus, hein. Et nous non plus, nous venons de Dieu, mais Mais du point de vue de la grâce, nous venons de la Jérusalem céleste. Du point de vue de l'existence sur la terre, nous venons de Dieu, du Créateur. Mais du point de vue de notre grâce, de ce qu'on vit intérieurement, on vient de la Jérusalem céleste. Le corps spirituel vient d'en haut. Hein. Il vient de l'île de vie qui est à la fin. Et ce flux, ce reflux libre de l'électron libre, le tout petit, petit, le plus minuscule, l'infiniment petit dans l'Eucharistie, c'est-à-dire nous, dans l'infaillibilité de l'accomplissement de l'Église, ce flux et ce reflux du corps spirituel au corps originel, dans la surmultiplication, dans la liberté du don, la création tout entière à l'intérieur de la précédente Trinité, dans l'émanation du don. Ça, on est le tabernacle. C'est pour ça que la messe, là, du soir, on demande, on reçoit ce don à l'état parfait, et alors le pardon est donné du repentir mondial. Ils ne savent pas ce qu'ils font, évidemment. Évidemment qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le tout petit sait. Mais comment voulez-vous qu'eux, ils sachent ce qu'ils font? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pour nous, c'est évident, dans cette messe, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici que je viens. C'est pas Jésus qui dit, voici que je viens. Pardonne-la, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pas Jésus, c'est le Verbe. C'est la personne divine de Dieu qui dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-la. Pitié pour ceux qui t'abominent. Pitié pour ce scandale du monde. T'as lié malade l'esprit de Satan. C'est Jésus crucifié et mort qui dit ça. Bien sûr, on entend Jésus dire, j'ai soif. Ah, il n'est pas encore mort. Alors vous avez un livre que je vous conseille, du Père Marie-Dominique Philippe. Intitulé « J'ai soif ». Un livre admirable. Admirable. « J'ai soif ». C'est ce que vit Jésus après sa mort. Dans la personne du Verbe. Dans la blessure du cœur. Et ça, c'est vivant. Dans la foi de Marie. C'est pour ça que cette parole s'est laissée entendre. C'est le catéchisme.
C'est un appel d'amour.
Ah, oh, bah oui. Ah, oui. Je comprends. Un appel éternel. Éternel d'amour. Parce que l'amour, il y a beaucoup de sortes d'amour. Éternel d'amour. Et là, comme Jésus dit, pareil, dire pardonne-leur, c'est pareil. C'est le Verbe de Dieu. C'est Jésus après sa mort. Déchirure de son union hypostatique après sa mort. Donc c'est la personne de Dieu éternel, incréé, lumière de la lumière qui crie. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Scandale du monde. Délivré. À travers la foi immaculée de l'infaillible et infaillible et accomplie de Marie dans l'Église d'aujourd'hui qui dit, c'est le Verbe de Dieu. C'est pas nous. C'est pas Jésus, mais c'est le Verbe de Dieu. Vous voyez l'importance de la transverbération. C'est le Verbe de Dieu, c'est Dieu le Père, c'est Dieu Créateur, c'est Dieu éternellement Dieu qui dit ça. À travers nous. C'est ça la mission de ceux qui assistent à la messe. De laisser cette transformation opérer en notre mystique, en notre vie intérieure, de manière telle que Dieu les poussait à créer d'avant la création du monde, puisse s'exprimer de cette manière-là, de manière audible à travers nous. Au Père, donne-leur le fruit de la Sainte Eucharistie. Ça, c'est une mission, vous voyez, c'est pas. Il y a un appel, quoi, un appel de l'escatologie, c'est l'appel qui vient d'aujourd'hui, quoi, hein, on est en 2013, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est ça, voilà, ce que Dieu nous attend là, quoi, nous attend là dans une vie. C'est pas une vie mystique, ça, hein, c'est une exigence, si vous voulez, la catholicité d'aujourd'hui, c'est une exigence de notre foi catholique, d'aller jusque-là, dans notre participation instrumentale, au sacrifice accompli, eucharistique de Jésus, dans la messe. Hein, c'est une manière de le vivre intérieurement, qui ne soit pas seulement à travers la vertu de religion. Que ce soit divin, que ce soit la divinité, les traits enflammés de la divinité essentielle et substantielle de Dieu lui-même, qui soit la liberté de s'exprimer à travers nous, à travers ça, à travers cette Eucharistie. C'est là, il y a un appel très très fort. C'est ça. Alors, on va le faire. Alors du coup, il y a une unité qui se fait, parce que du coup, c'est nécessaire pour le monde angélique glorieux de s'engloutir, disparaître dans cette parole eucharistique des chrétiens de la terre. C'est nécessaire pour Dieu, le Saint-Esprit, de s'y engloutir aussi. Et c'est nécessaire aussi pour tous les ressuscités. Je parle de Marie qui est ressuscitée, de Jésus qui est ressuscité, de Joseph qui est ressuscité, de s'engloutir aussi dans ce cri qui est le nôtre. Il dépend de nous. Parce que nous sommes plus que la gloire de la résurrection dans le sacrifice eucharistique du Christ. Ça, c'est la parole de l'Église catholique. Et prendre conscience dans notre petitesse, l'importance de cette petitesse pour le salut du monde, c'est très, 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 très grand. Et petit à petit, on va s'habituer à ça, hein, c'est pas seulement moi. Petit à petit, on va s'habituer à ne plus jamais vivre autrement que de cette manière-là, toute divine, sous le souffle du paraclet, dans l'au-delà de l'unité du paraclet, de son épousée, l'immaculée conception accomplie dans Jérusalem, et l'au-delà de la résurrection. Dans cet au-delà, nous en sommes l'émanation dans la matière de la clinique de notre corps spirituel dedans, et la surmultiplication du oui, de notre innocence divine retrouvée dans l'innocence triomphante du Verbe de Dieu, assumant toute la nature humaine. Le reste, je m'excuse, mais c'est de la blague. Vous croyez pas? Moi je crois, c'est évident de toute façon. En tout cas, le jour de l'avertissement, le jour d'ouverture du cinquième saut de l'Apocalypse, là dans quelques semaines, hein, évident pour tout le monde. Mais c'est tout le travail justement de l'infaillibilité du Saint-Père, c'est de se préparer, d'anticiper, de le vivre déjà. En plénitude. Résolument. Bon, vous le savez par cœur, puisque vous avez l'habitude du petit rite du frère Saint-Jean qui n'arrête pas de vous raconter ça déjà depuis 30 ans. Ils entendent tout le temps, ils répètent toujours la même chose. Alors à force d'entendre, on finit par dire « Seigneur, c'est ça que je voudrais » et le soir quand on s'endort, je me rappellerai toujours, tout le temps je vous le redirai. « Patrick, je comprends rien. » Mais quand tu t'endors le soir, dis « Seigneur, envoie-moi l'Esprit Saint, que je puisse voir. Ah ça, je comprends rien, j'aimerais bien. » Et tu vas voir si le lendemain, l'Eucharistie, tu comprends pas. Tu vas voir. Si tu comprends pas, c'est que tu ne l'as pas désiré, tu ne l'as pas demandé. Il faut s'endormir hein, en demandant. Ah, oh, je voudrais tellement voir, comprendre. Hein, c'est ça, hein, c'est pas du tout au-delà de notre compréhension. Vous voyez, on n'est pas protestant du tout. Les protestants disent, de toute façon, on ne peut pas comprendre. Hein. C'est trop... C'est un mystère. Moi, combien de fois j'ai entendu les catholiques protestantisés dire ça. De toute façon, c'est un mystère, on ne peut rien comprendre. Donc, puisque c'est un mystère, on n'y comprend rien. C'est exactement le contraire. L'Église catholique, le Saint-Père, il dit, puisque c'est un mystère, on peut le comprendre. C'est ça la doctrine infaillible. Tu peux le comprendre. Pas seulement le comprendre, mais en plus, le voir. L'actuer. Réaliser. Ah, mais c'est ça. Qu'est-ce que c'est bien. Oui. Parce que Luther lui dit, bah, notre intelligence est tellement abîmée par le péché qu'elle ne peut plus rien comprendre. Donc Jésus ne sauve pas l'intelligence. D'abord, première erreur, le péché n'a pas détruit notre intelligence. Même pas abîmée. Blessé le cœur seulement. L'intelligence intacte, pas atteinte, même un milliardième de millimètre. Notre intelligence, notre intellect agent, parfaitement capax, atteint en rien. Quand le péché est tellement bon, on ne peut rien comprendre de toute façon. Donc, l'Église catholique dit, pardon, désolé, il faut vivre une vie contemplative. Et dans la lumière, tu pénètres, tu touches, tu pénètres, tu assimiles, tu comprends, tu le contemples, tu en vis et tu es transformé. Voilà les cinq étapes de la vie contemplative. Par l'intelligence surnaturalisée par la foi. Et c'est de cette foi vivante-là que saint Paul parle dans l'Épître aux Romains en disant c'est la foi qui justifie. C'est pas la foi de la vertu de religion en disant moi j'ai confiance que j'y crois, mais j'y vois rien. L'Immaculé voit tout, saint Joseph voit tout. Et il dit oui. Mes enfants, pour qui je prie à la messe, là, eh bien, ils doivent tout voir et dire oui. Et moi, je dois leur communiquer cette lumière infaillible, toute divine, toute lumineuse, toute compréhensive, toute appréhensive, toute assimilée, toute transformante.